Je vous propose de prier ensemble. Au moment d'ouvrir ta parole, Seigneur, nous te rendons grâce pour celles et ceux qui nous ont précédés et qui nous ont transmis avec fidélité, droiture, constance, le message de l'Évangile. Et au moment de méditer cette parole, nous nous souvenons qu'elle est la vérité, que c'est toi qui nous l'as donnée et qu'elle est là pour notre instruction et notre édification. Puisse-t-elle, Seigneur, par la grâce de ton esprit, trouver le chemin de nos cœurs maintenant et produire en nous le fruit que tu désires. Amen. Alors, est-ce que vous êtes de celles et de ceux qui ont la nostalgie de l'époque où ce lieu de culte, par exemple, était plein à craquer? Alors, ça peut être il y a quelques dizaines d'années ou peut-être quelques semaines parce qu'il y avait un événement particulier. Est-ce que vous êtes de celles et de ceux qui se posaient la question de savoir, mais pourquoi donc nos voisins, nos collègues de travail, nos amis, peut-être tel ou tel membre de notre famille, paraissent si insensibles au message de l'Évangile? Insensibles, même pas opposés, mais complètement indifférents. Sans développer les choses, on peut quand même constater que l'époque dans laquelle nous vivons fait tout pour que justement ce message soit peu audible et guère reçu. Vous l'avez sans doute remarqué, l'offre religieuse par exemple est multipliée. Et puis chacun maintenant, même dans les bonnes églises où il y a la saine doctrine, comme ici, fait un peu son menu à la carte. Vous aurez constaté que l'individualisme qui caractérise notre société est aussi très présent dans la façon dont la piété est vécue. Et puis vous avez sans doute entendu ou lu ou à vous débattre avec ce discours qui discrédite le christianisme à cause de ses erreurs, à cause de ses péchés, tout simplement. Et puis, pour ne parler que de notre pays, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement que nous avons, que les gouvernements que nous avons eu ou ont, mettent maintenant les églises en CDD, puisqu'il faut tous les 5 ans redemander son accréditation en préfecture. Bref, les temps sont durs. Les temps sont durs. Et peut-être que ça va provoquer chez nous soit un découragement, une sorte de nouvelle maladie qu'on appellerait l'aquabonite. À quoi bon maintenant continuer? Sorte de désespérance, peut-être même de passivité. On espérait que, et puis voilà. Un peu comme ce maître, vous savez, dans la parabole de l'Évangile, qui dit, ben voilà, j'ai planté, mais rien ne s'est passé. Peut-être qu'à l'inverse, notre faiblesse numérique est pour nous un sujet de fierté. Alors on a là, présent à l'esprit et tout de suite à la bouche, ce verset, ne crains pas, petit troupeau. Et on met la petitesse de nos rassemblements comme marqueur de notre fidélité. Plus on est fidèle, moins on est nombreux. Avec le risque de se replier sur soi, avec aussi inversement, et on le perçoit bien de façon générale, ce désir, cette tentation d'être absolument reconnu, qu'on nous considère, qu'on fasse attention à nous. Bon, peut-être que ce n'est pas très réjouissant tout ce que je dis, et que vous vous demandez bien où je veux aller. Eh bien, je veux aller dans la première épître de Pierre. Je veux aller dans la première épître de Pierre et vous lire quelques versets dans le chapitre 3, première lettre de l'épître Pierre, chapitre 3, où nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, répondez au contraire, par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit le mal, qu'il fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez à faire ce qui est bien? Et puis même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme saint. Et soyez prêts à rendre compte de votre espérance à tous ceux qui vous en demandent raison, avec humilité et respect, douceur, en ayant une conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite qui découle de votre union à Christ auront à rougir de leur calomnie, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Pourquoi je vous ai lu ce texte-là? Eh bien parce que, mais je pense que vous le savez pour la plupart d'entre vous, mais ce texte écrit par l'apôtre Pierre est rédigé dans un contexte qui ressemble étrangement à la situation dans laquelle nous sommes. L'Église à laquelle Pierre écrit souffre d'isolement. Elle n'est pas majoritaire. Elle ne fait pas la loi. Elle n'a pas d'influence. Les conditions de vie pour les communautés sont difficiles. Il y a une véritable persécution physique, peu de reconnaissance officielle et un véritable inconfort moral et religieux. Les chrétiens sont méprisés, attaqués, discriminés. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre vient parler de l'attitude que les chrétiens doivent avoir, que l'Église doit avoir. Il vient parler de la façon dont nous devons être, pour reprendre les paroles de Jésus, sel de la terre et lumière du monde, dont nous devons être les témoins. Ces propos, donc, doivent nous intéresser, parce que la situation dans laquelle ces chrétiens sont, je l'ai dit, je le répète, ressemble à la nôtre. Un décalage entre ce que nous vivons, entre ce que nous proclamons, entre l'éducation que nous essayons de donner à nos enfants, entre les valeurs que nous prônons, entre la morale de l'Évangile, tout simplement, c'est-à-dire le style de vie qu'implique l'Évangile, un décalage entre cela et puis, tout simplement, le monde dans lequel nous sommes. Et ce n'est pas la peine d'aller très loin pour chercher des exemples. Je pense que les uns et les autres, nous sommes d'une manière ou d'une autre confrontés à cette situation, avec cette difficulté de nous situer, avec cette difficulté de plus en plus de vivre en cohérence avec notre foi et avec ce que le monde nous propose. Peut-être que nous nous sentons décalés, peut-être que nous nous sentons isolés, peut-être que nous nous sentons même étouffés. Alors, les propos de Pierre sont quand même très surprenants. Ils sont surprenants parce que, et c'est la première remarque que je voudrais vous laisser, c'est que Pierre, dans ce contexte-là, ne préconise pas la stratégie de la tortue. Vous savez ce que c'est, ou de l'escargot, si vous préférez. C'est-à-dire que dès qu'il y a un danger, on rentre dans sa coquille et puis on essaye de se faire le plus petit possible. Pierre ne préconise pas le repli sur soi. Il ne préconise pas de se construire des sortes de citadelles où on est bien protégé, où on vit entre soi. Il ne préconise pas une séparation totale. Il ne parle pas d'un royaume qu'on instituerait là, maintenant, sur terre, d'un mode de vie qui serait en cohérence avec nos valeurs et complètement différente. Pour lui, il ne s'agit pas de mettre la lampe sous le boisseau. Je constate aussi que Pierre, c'est la deuxième remarque, ne dit pas que les chrétiens qui sont là, même s'ils sont peu nombreux, même s'ils sont persécutés, même s'ils sont discriminés, doivent relever la tête et puis organiser de grandes manifestations. Style, rappelez-vous, Bercy, par exemple. Alors, Pierre a fait ce genre de choses-là. Souvenez-vous, à la Pentecôte, avec plus de 3000 personnes qui ont répondu favorablement à cet appel. Mais Pierre n'est pas en train de dire qu'il faut aller dans cette direction-là. Pierre n'est pas en train de dire qu'il faut proclamer publiquement l'Évangile. Pierre ne le fait pas parce qu'il sait peut-être les risques qu'il y a à proclamer publiquement des choses que quelquefois on ne vit pas personnellement. En fait, et c'est la troisième remarque, ce que Pierre fait, c'est qu'il braque le projecteur sur l'importance des relations que nous avons. Relations que nous avons les uns avec les autres dans la communauté, mais relations que nous avons aussi avec les gens de l'extérieur. Et en peu de mots, il souligne l'importance, il évoque l'impact que notre vie peut avoir sur les autres. Et l'extraordinaire ouverture que nous devons manifester vis-à-vis des autres. Et il met en évidence l'engagement que cela nécessite de notre part. En d'autres termes, même s'il n'emploie pas ces expressions-là, Pierre est en train de nous dire que nous sommes comme un livre ouvert, comme une lettre, et que ceux et celles qui sont de l'extérieur doivent pouvoir lire en nous l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans les versets que nous avons lus, la suite des principes, l'énumération des principes qui sont là vont dans ce sens-là. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères, soyez bons, soyez humbles, etc., etc. Bref, autant d'attitudes, de comportements qui ne peuvent venir que parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et qui vont de toute façon influencer le monde dans lequel nous sommes. Mais comment ? Comment ? Eh bien, la première leçon que Pierre nous donne, ou le premier principe, si vous préférez, c'est d'être toujours prêt. Soyez prêt. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez prêt ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Soyez prêt à rendre compte à tous ceux qui vous en demandent, qui vous nous le demandent, de l'espérance qui est en vous. Toujours prêt, ça signifie une disposition générale. Ça signifie que j'ai dans ma tête, le matin quand je me lève, le fait que peut-être à un moment ou à un autre, je vais être en contact avec quelqu'un qui va me demander quelque chose. Et qu'il va y avoir à un moment ou à un autre la possibilité de dire quelque chose de l'Évangile, de dire quelque chose de ma foi, de dire quelque chose, on va y revenir dans quelques instants, de l'espérance qui est en moi. Être prêt. Je constate, pour ma part, que s'il y a des jours où je suis tout à fait disposé à entrer en relation avec l'un et l'autre et à discuter de ce qui fait quand même l'essentiel de ma foi et de ma vie, qu'il y a d'autres moments, je suis préoccupé par des tas d'autres choses et pressé et que j'en ai pas envie et que je ne suis pas en forme. Enfin, vous voyez tout cela. Pierre dit, soyez toujours prêts. Ça veut dire une position de principe, une préparation donc. Si on vous demandait en 30 secondes de dire, mais c'est quoi votre espérance? Est-ce que vous y arriverez? Parce que quelquefois, nous n'avons pas plus que 30 secondes. Soyez prêts. Ça veut dire préparez-vous. Ça veut dire préparez-vous à un moment ou à un autre à être le témoin de l'œuvre de Dieu dans votre vie. La seconde chose que je remarque, c'est que Pierre dit être prêt à rendre compte à tous ceux qui vous le demandent. À tous ceux qui vous le demandent. Le signal, c'est l'autre qui le donne. Et peut-être qu'une des grandes difficultés que nous avons, et peut-être qu'une des causes quelquefois du peu de, est-ce que j'ose dire, de succès que notre annonce de l'Évangile rencontre, c'est parce que nous n'écoutons pas la question et nous lançons tout simplement ce que nous pensons devoir dire. Et nous le lançons, nous le disons à des gens qui ne se posent pas la question. Alors c'est très frustrant. Nous sommes entourés à Vergès de voisins charmants. Et c'est bien. Mais alors, c'est des plumes de canard pour l'instant. Ah, vous êtes pasteur, c'est bien. Oui, ben moi, je suis facteur. Et puis, on passe à autre chose. Ça ne va pas plus loin. Et on aurait envie de dire, mais allez, bouge-toi, secoue-toi. Mais ils ne demandent pas. Peut-être qu'un jour, ils demanderont. Peut-être qu'un jour, il faudra que nous entendions leur demande au travers de telle ou telle petite conversation. Mais si on impose quelque chose, rien ne va se passer. Sinon, peut-être comme une huître, un esprit qui se referme un peu plus. Attends donc le signal de la part de l'autre. Mais est-ce qu'on peut le provoquer, ce signal? Est-ce qu'on peut provoquer leur question? Probablement que oui. S'ils voient en nous quelque chose de différent et qui n'a rien à voir avec nos habitudes du style à 10 heures, les voisins s'en vont parce qu'ils vont au culte, qui n'a rien à voir avec peut-être même notre accoutrement ou que sais-je encore, mais justement qui a à voir avec la qualité de personne que nous sommes, les traces de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Je l'ai cité il y a quelques instants, Jésus a dit que nous étions des lumières et que nous étions du sel. Et le rôle, mon rôle, votre rôle, c'est là où vous êtes, là où nous sommes, d'être cette lumière qui éclaire tout simplement, ce sel qui donne le goût à la vie, ce sel qui est un facteur de paix dans ce monde déchiré. Et c'est ce que Paul va redire aux Philippiens quand il leur dit « Dans ce monde corrompu, vous brillez comme des porteurs de lumière. » La troisième leçon, c'est que Pierre, et peut-être que certains vont trouver que je joue sur les mots, mais je crois que ça a son importance, parle de l'espérance. Il ne parle pas de la foi. Alors bien sûr, ça va ensemble. Mais il dit « Rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Souvent, nous pensons que nous devons réciter notre catéchisme ou ce qui nous en reste. Non. Ce qui intéresse et ce qui m'intéresse, c'est comment cette parole m'a rejoint et fait qu'aujourd'hui, je suis rempli d'espérance, même si il y a des tas et des tas de facteurs, d'événements, de pensées qui peuvent bousculer ma vie. Parler de notre espérance. Alors, on pourrait en parler longtemps, mais c'est quoi, en clair, notre espérance? Moi, je pense qu'on peut dire deux choses, et je le fais très rapidement. Notre espérance, c'est effectivement qu'un jour, tout sera bien. Alors là, on parle de la résurrection, on parle du ciel, on parle de nouveaux cieux, une nouvelle terre, etc., etc., oui. Mais elle parle aussi de maintenant. Et mon espérance en ce moment-là, ce n'est pas que tout va bien, mais c'est que celui qui a promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde est réellement avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et qu'il chemine avec moi, et que je chemine avec lui. Et que c'est lui qui donne le sens, l'orientation à ma vie. Et c'est lui qui me permet de traverser les épreuves qui ne manquent pas, qui ne m'épargnent pas plus que les autres, mais qui me donne, comme le dit Paul aux Thessaloniciens, dans certains cas, le fait de pleurer de manière différente des autres parce que nous avons justement une espérance. Et c'est là que nous sommes attendus, me semble-t-il, aussi. En quoi mon adhésion à la foi chrétienne, en quoi mon adhésion au christianisme, en quoi mon adhésion à Jésus-Christ fait que je ne suis pas écrasé par le désespoir, que je ne suis pas déprimé par BFM TV, que je ne suis pas consterné et au 36e dessous à cause de tout ce qui arrive. Parce que comme nous l'avons chanté, il règne. Parce que comme la parole le dit, même si à certains moments il semble être loin, c'est sur son soin que tout repose. La quatrième leçon que Pierre nous donne, me semble-t-il, c'est que nous devons répondre de manière motivée. Et c'est ce qui est dit dans cette expression « rendre compte ». Rendre compte. Ce n'est pas interdit d'être intelligent. Ce n'est pas interdit d'user de ces cellules grises pour argumenter. Ce n'est pas interdit de faire preuve d'un peu de logique, quelquefois. D'être, n'ayons pas peur du mot, rationnel. Ma foi est bien plus rationnelle que votre agnosticisme ou que votre athéisme. Mais pas n'importe comment. Avec douceur et respect. Sans agressivité. Et en respectant l'autre. Autrement dit, on ne part pas en croisade. On ne part pas pour fendre l'infidèle. Mais même si le salut éternel de l'autre est en jeu, on y va tranquillement. Pourquoi? Mais parce que c'est Dieu qui œuvre et pas moi. Moi, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un canal. Mais c'est Dieu qui agit. C'est à lui de faire son œuvre. Et chacun d'entre nous n'est qu'un outil entre ses mains. Mais l'outil doit bien se comporter, et c'est là qu'intervient dans le texte la notion de respect. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire de respecter l'autre? Eh bien, peut-être qu'il faut juste réaliser que l'autre, même si c'est un païen, on va utiliser cette catégorie-là, même si c'est à nos yeux, le dernier des derniers, même s'il est, pensons-nous, complètement dans l'erreur, enfin bref, même si nous sommes meilleurs que lui, parce que c'est souvent ce que nous pensons, il est d'abord et avant tout une créature de Dieu au même titre que moi. Et je suis invité donc à le regarder et à l'entendre de la même façon que Dieu le regarde. Et comment Dieu le regarde-t-il? Comment Dieu le regarde-t-il? Il le regarde tout simplement avec amour. Il le regarde tout simplement avec cette attente que ce cœur s'ouvre à la grâce infinie que Dieu a manifestée en Jésus-Christ. Méditons ce verset où Jésus dit « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Donc, respecter l'autre, c'est se comporter avec lui comme Dieu se comporte avec nous. Mais peut-être que nous avons oublié ça. Peut-être que nous n'avons pas conscience de l'extraordinaire patience de Dieu à notre égard. Et je ne parle pas du temps où nous n'étions peut-être pas encore convertis, disciples de Jésus, mais je parle aussi d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui encore, nous ne sommes pas encore parvenus à la stature parfaite de Christ, et Dieu est patient avec nous. Alors, faire preuve de respect, c'est se comporter avec lui comme Dieu se comporte avec nous. C'est aussi lui parler en vérité, ne pas lui raconter des histoires, accepter ses critiques quand il y en a et quand elles sont justifiées, bien sûr. Tout simplement être ouvert et net devant lui. Et puis la dernière chose que Pierre dit, c'est avoir une conscience pure. C'est compliqué. C'est quoi la conscience? C'est tout simplement cette petite voix qui est en nous et qui, à un moment ou un autre, vient nous dire « Alors là, tu es en train de déraper » ou « Tu as dérapé ». Alors le problème avec la conscience, c'est qu'elle est élastique. Et que la conscience, nous savons très bien la manipuler. Et que tous les uns et les autres, nous sommes des professionnels à ce niveau-là. Mais pourtant, Pierre nous dit avoir une conscience pure, ou purifiée si vous préférez. Tout simplement passer au scanner de l'Esprit de Dieu. Parce que ma conscience peut rien, quelquefois peut ne rien me reprocher, mais l'Esprit de Dieu peut quelquefois me dire « Attends, là, tu te mens à toi-même, tu fermes les yeux, mais ce n'est pas comme ça que ça devrait être, ce n'est pas comme ça que tu devrais être. » Et je me demande, à tout bien considérer, si ce n'est pas là que les choses doivent commencer. Être tout simplement pur, c'est-à-dire purifié devant Dieu. Et ça, c'est constant. C'est constamment que ça se fait. Ce n'est pas une fois pour toutes. Mais nous en avons besoin constamment. Et à ce moment-là, sans doute, que nous serons beaucoup plus à même de vivre concrètement l'Évangile dans notre vie et plus à même peut-être d'entendre celles et ceux qui remarquent notre différence, remarquent qu'on ne fait pas exactement les choses de la même façon, remarque quand on s'est énervé, on vient s'excuser. Remarque quand on a peut-être fait une erreur, on la reconnaît. Enfin bref, remarque qu'on essaie d'être vrai. Alors, non à l'amorosité, non au défaitisme, non au découragement. Relevons la tête. Car notre délivrance est proche. Mais en attendant, Jésus dit heureux celui et celle que son maître trouvera au travail. Non à l'affliction, parce que nous avons une espérance. Et nous la possédons comme une ancre. C'est ça qui nous tient. Et oui, à l'authenticité, c'est-à-dire à vivre toujours plus, toujours mieux, et c'est très exigeant, en conformité avec ce que nous professons, avec notre foi, avec notre amour. Comme Jésus l'a fait, lui sur qui nous sommes invités à fixer les regards. Je vous invite à prier. Seigneur, pour que nous puissions briller dans ce monde comme tu nous le demandes, nous avons besoin de toi, que ton esprit œuvre en nous et qu'en toute chose nous puissions chercher à te ressembler, chercher à te plaire, chercher à faire non pas notre volonté mais ta volonté. Seigneur, dans ce monde qui nous paraît de plus en plus difficile, plus dur, plus opposé à toi, viens au secours de notre faiblesse et maintiens-nous toi-même dans la droiture et dans la fidélité, dans la persévérance de la foi. Au nom de l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Amen.